Mes bien chers frères, voici mon sermon pour la vigile de la Nativité, car vous savez qu'aujourd'hui, quatrième dimanche, on dit la messe de la vigile et non pas celle du dimanche. Avant de commencer mon sermon, je voudrais vous faire une annonce paroissiale, puisque nous sommes une grande paroisse à distance. Avez-vous bien noté la retraite que je prêche, retraite de Saint-Ignace, fin février, tout début mars, ouverte aux couples? C'est une nouveauté, mais je pense que ça vaut la peine. Et puis, également, la session de chant grégorien que je vous recommande particulièrement. Enfin, la retraite de Semaine Sainte. N'hésitez pas à faire connaître ces activités et à inviter les personnes que vous connaissez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'introïte d'aujourd'hui nous dit « Aujourd'hui, vous connaîtrez la venue du Seigneur, il nous sauvera, et demain, vous verrez sa gloire. » La terre appartient au Seigneur, avec tout ce qui l'habite, tout l'orbe du monde, tout l'univers, tous ceux qui y habitent. Il semble, à première vue, contradictoire, d'annoncer la gloire du Seigneur pour demain, jour de Noël, alors que notre Seigneur vient dans une simple étable, qu'il vient relativement discrètement, qu'il vient surtout dans l'humilité, rejeté des hommes. Peut-on vraiment parler de gloire du Seigneur? Je voudrais voir avec vous ce qu'est la gloire de Jésus-Christ et tirer les conclusions sur la gloire de Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a une gloire propre à notre Seigneur dans l'incarnation. Si l'on prend l'introïte d'aujourd'hui dans l'ordre, vous verrez la venue du Seigneur, il nous sauvera. La première gloire de notre Seigneur est d'être le Sauveur. Tout l'avant nous a rappelé que notre Seigneur venait nous sauver, nous a rappelé que nous devons quitter le péché pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. L'oraison du quatrième dimanche, que nous ne disons pas aujourd'hui, je vous ai expliqué pourquoi, mais l'oraison du quatrième dimanche porte encore sur ce sujet, sur le péché et le salut. La première gloire du Sauveur, c'est de nous avoir sauvés. Pourquoi est-ce une gloire? Tout d'abord, à cause de la grandeur du salut, et puis à cause des conditions du salut. Les conditions, nous avons non seulement le maître qui vient sauver l'esclave, mais nous avons Dieu qui vient sauver celui qui s'est opposé à lui par le péché. Et vous avez plus encore que cela, Dieu qui trouve le moyen par l'incarnation de donner sa vie pour les pécheurs, et vous avez cette gloire extraordinaire qui est propre à la rédemption, à savoir que notre Seigneur montre pour nous un immense amour, et saint Alphonse de Ligorie, citant un père de l'Église, nous dit que toutes ces souffrances de notre Seigneur n'étaient peut-être pas nécessaires à notre salut, car il aurait pu nous sauver à beaucoup moindre coût, mais elles étaient nécessaires à son amour pour nous. Notre Seigneur, en nous sauvant, nous montre un amour divin. Et la grande gloire de la rédemption, c'est qu'elle restaure une amitié divine entre nous, ce qui, à condition de suivre notre Seigneur, de quitter le péché, et d'avoir la foi et la charité, bien entendu. Elle restaure une véritable amitié entre nous et Dieu. Et aux autres, même si elle ne la restaure pas chez les autres, elle l'offre et elle donne les moyens de la posséder. Et si les pécheurs n'entrent pas dans cette amitié divine, c'est parce qu'ils l'auront refusée. Et on ne pourra vraiment pas dire que ce soit un défaut de la part de Dieu. Voici une gloire extraordinaire et une gloire qui dépasse toutes les gloires humaines. Bien sûr, toutes les gloires de l'Ancien Testament, des païens. Mais s'il y a une gloire dans la chrétienté, elle est en référence à celle-ci. La deuxième gloire de notre Seigneur dans l'incarnation, c'est que la divinité soit présente dans cette nature humaine si humble et si simple. Quelle gloire pour cet homme, puisque Jésus est homme, il y a deux natures, une nature humaine, une nature divine, et il n'y a qu'une personne, bien entendu, c'est un rappel nécessaire, une seule personne en deux natures, n'empêche que cette nature humaine est un homme. Voici qu'un homme est habité par la divinité, l'un d'entre nous est habité par la divinité, habité, c'est une manière de parler, il est Dieu. Dieu. Cet homme est Dieu, et Dieu est au milieu de nous, et c'est une gloire extraordinaire, non pas pour Dieu, mais une gloire pour Jésus-Christ incarné, parce qu'il est Dieu. Enfin, il y a la gloire propre de l'incarnation dans l'humilité. Nous avons trop souvent tendance à croire que l'humilité n'est qu'un abaissement, voire même un écrasement. L'humilité consiste à dire comme la Sainte Vierge, « Mon âme magnifie le Seigneur, car il a fait en moi de grandes choses, saint est son nom. » L'humilité ne consiste pas à diminuer les dons de Dieu, à mépriser ce que nous sommes alors que Dieu nous a donné tant de grâces et tant de bienfaits. L'humilité consiste non pas à nier le don, elle consiste à reconnaître que c'est un don et que cela ne vient pas de nous-mêmes, que cela ne nous est pas propre et personnel. Et par conséquent, l'humilité nous grandit parce que elle nous fait reconnaître et elle nous met dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main d'un plus grand que nous. Celui qui est orgueilleux croit se grandir, mais il échappe ou il cherche à échapper à Dieu, il cherche à échapper à celui qui est plus grand que lui, il sort de la main de celui qui est plus grand que lui. L'humble, comme l'obéissant, est celui au contraire qui est dans la main de Dieu, qui le sait, qui le reconnaît, et qui, par conséquent, bénéficie de toute cette grandeur que Dieu lui communique. S'il y a eu un homme humble, ce fut bien notre Seigneur Jésus-Christ. Lui le plus grand fut le plus humble. Lui le plus grand, le premier de tous les hommes, le fils de l'homme, tous les hommes sont fils d'homme, mais lui est particulièrement fils de l'homme. Lui le plus grand, dans son humilité, montre que tout vient de Dieu. Et c'est pourquoi les conditions de la naissance de notre Seigneur sont celles que Dieu a choisies pour mettre en valeur la grandeur de la divinité. Lorsqu'on entre dans la grotte de Bethléem, on ne voit rien que Jésus, Marie, Joseph. Rien ne nous distrait, rien n'est étranger, il n'y a que Jésus, Dieu, avec sa mère, la mère du Fils de Dieu. Les circonstances de l'incarnation, Jésus si humble, et même encore après cela, durant sa vie cachée, et même encore durant sa vie publique, ainsi que durant la Passion, à chaque fois, les circonstances de la vie de notre Seigneur attirent, non pas à l'extérieur, non pas à ce qui a du brio, à ce qui brille, à ce qui pourrait intéresser la passion des hommes, à chaque fois, c'est la foi qui nous est présentée, Dieu, Dieu qui nous sauve, Dieu qui est parmi nous, Dieu qui est notre modèle, Dieu qui s'est incarné. Ne voyons pas dans les circonstances de l'incarnation une sorte de diminution, une anomalie. Au contraire, lorsque vous avez une œuvre d'art exceptionnelle, vous la mettez en valeur, vous ne la noyez pas au milieu d'œuvres quelconques. De façon à ce que, en entrant dans la pièce par exemple, on soit directement attiré par le tableau du maître et non pas qu'on ait le regard distrait à droite, à gauche, avec le tableau du maître perdu au milieu. Notre Seigneur, dans son humilité, dans sa pauvreté, parce que j'ai parlé d'humilité, mais la pauvreté est une forme d'humilité, notre Seigneur, dans son humilité, dans sa pauvreté, est vraiment l'œuvre du maître qui attire le regard et qui a pris bien soin de que nous ne soyons pas distraits. La conséquence de cette gloire de notre Seigneur, c'est qu'il est le roi. Et l'introïte d'aujourd'hui cite le psaume 23, « La terre est au Seigneur, avec tout ce qui l'habite, tout l'orbe de la terre, l'univers entier et tous ses habitants. » Notre Seigneur est roi, qu'il soit reconnu comme tel ou qu'il ne le soit pas, notre Seigneur est roi. Son royaume est un royaume extraordinaire, parce que c'est un royaume qui est la prolongation de l'incarnation, c'est la chrétienté, c'est la vertu, ce sont les saints, c'est tout ce qui est absolument merveilleux dans l'Église. Bien sûr, il y a la gloire extérieure, ces grandes œuvres de la chrétienté, les grandes cathédrales, les grandes églises romanes et les églises gothiques. Vous avez ces grandes œuvres merveilleuses, des hôtels Dieu, des hospices dans lesquels la charité s'exerçait avec des religieuses consacrées toute leur vie à la charité absolument gratuite auprès des pauvres, des mendiants et des malades, et surtout des malades qui sont quelquefois assez repoussants. Mais il y a également une gloire extraordinaire dans la chrétienté. Je pense à la Papouasie devenue chrétienne. Je vous en parle plusieurs fois parce que je l'ai étudiée. Quand on voit cette terre, je ne parle pas de la Papouasie tout de suite maintenant, depuis qu'elle est devenue indépendante, que l'ONU est passée par là, le Concile Vatican II et tout le reste. Mais prenez la Papouasie en 1930. C'était encore un pays apparemment totalement sauvage, qui donnait l'impression de l'âge préhistorique. Et pourtant, c'était déjà un pays qui commençait à être chrétien. Vous aviez de pauvres femmes qui commençaient tout juste à découvrir qu'il fallait s'habiller, mais elles assistaient à la messe. Et les missionnaires comptaient le nombre de communions qu'ils avaient en semaine, et c'est à cela qu'ils voyaient les progrès de leur chrétienté. Un pays qui fournissait des vocations, des sœurs papous dès 1920, c'est-à-dire 20 ou 25, c'est-à-dire 30 ou 35 ans de mission, et il y avait déjà une congrégation de sœurs papous. Cela, aux yeux du monde, c'est peu de choses, mais c'est énorme, c'est une gloire extraordinaire. La gloire, la vraie gloire de la chrétienté, le règne de notre Seigneur, c'est un règne qui part du dedans et pour arriver au dehors. Si je commençais par le dehors, les choses visibles, c'est pour faire comprendre que ces choses visibles ont une âme et que le règne de notre Seigneur part du dedans. Il n'est pas limité au dedans. Cela, c'est l'hérésie, c'est même presque l'apostasie du prétendu laïcisme qui n'est qu'un athéisme. Dieu règne dans les cœurs, dans les âmes, et puis il n'a pas à régner à l'extérieur, dans la société. Combien de fois Mgr Lefebvre nous a dénoncé cette erreur. Non, c'est une erreur. C'est un règne. Le règne de notre Seigneur est un règne qui part de l'intérieur et qui se développe à l'extérieur, parce qu'il englobe tout. Aujourd'hui, ce règne est peu reconnu. Cela n'empêche pas notre Seigneur d'être roi. Dans l'Évangile, il y a plusieurs paraboles, notamment celle des serviteurs de la vigne qui se sont révoltés contre le roi. Alors le roi a envoyé ses serviteurs pour les soumettre, ceux qui n'ont pas voulu. Les serviteurs furent tués. Il envoie son fils c'est Jésus-Christ. Le fils est mis à mort. Alors le roi vient lui-même et il met à mort le peuple révolté, c'est-à-dire le peuple qui a refusé Dieu. Notre Seigneur ne cesse pas d'être roi. Ce n'est pas parce que le monde aujourd'hui s'organise sans lui et contre lui que notre Seigneur aurait cessé d'être roi. Ne jugeons pas avec nos mesures humaines, c'est-à-dire nos mesures extérieures, jugeons avec la même mesure que les anges. Et pour les anges, notre Seigneur est leur roi. Et que sont ces pauvres fourmis d'hommes qui se révoltent contre leur roi? Ça n'a rien du tout. Notre Seigneur n'est pas diminué par cela. Il n'est pas amoindri. Sa royauté n'est pas amoindrie, au contraire. Je dis au contraire parce que notre Seigneur reviendra dans sa gloire, dans la puissance de sa gloire. Et puis je dis au contraire parce que, de même que la Sainte Vierge à elle toute seule, fait à notre Seigneur, donne à notre Seigneur plus de gloire que tous les saints, de même les saints que notre Seigneur continue à aimer ici-bas malgré la crise dans la société et dans l'Église, ces saints continuent à donner une gloire qui pèse beaucoup plus que le déshonneur que les pécheurs infligent à notre Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de notre Seigneur est semblable à lui. C'est un royaume de grâce, un royaume de sainteté. C'est également un royaume d'apostolat. Il faut, mes bien chers frères, et j'en arrive à la conclusion de mon sermon, il faut, mes bien chers frères, que nous comprenions bien comment notre Seigneur règne dans ce monde. Il règne en sauvant les pécheurs, et quiconque est le serviteur du grand roi, est le serviteur du sauveur, et se fait sauveur soi-même. Les serviteurs du roi font l'œuvre du roi. Lorsque le roi part à la guerre, les serviteurs du roi font la guerre avec lui. Lorsque le roi conquiert un pays, les serviteurs du roi conquièrent le pays avec lui. Et lorsque le grand roi du ciel vient sauver les hommes sauvent les âmes et les pécheurs avec notre Seigneur Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre volonté d'apostolat, notre volonté de faire rayonner notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que nous voulions, que nous prétendions changer la face du monde, c'est que nous avons la foi dans la royauté de notre Seigneur, regna vita ligno Deus, notre Seigneur Dieu règne par la croix. Il nous a sauvés, comme nous dit l'introïté, il nous a sauvés, tel est son règne. Le règne est dans le salut, et nous poursuivons le règne de notre Seigneur en poursuivant son œuvre de salut. Et puis, il y a cette gloire que nous donnons à Dieu dans l'humilité. Certainement, c'est à cause de l'orgueil du monde que Dieu, la Providence, a voulu humilier l'Église et les chrétiens. C'est à cause de l'orgueil du monde que la Providence a humilié notre Seigneur Jésus-Christ. Elle l'a fait venir dans une pauvre grotte, une pauvre crèche. La crèche, c'est la mangeoire, la grotte, c'est l'étable. Elle l'a fait venir dans une pauvre étable et après ça, dans une pauvre crèche. C'est à cause de l'orgueil du monde, l'orgueil des pécheurs, que la Providence a traité ainsi notre Seigneur. Parce que il faut apporter un remède qui soit contraire au mal. Et le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Quiconque ne comprend pas cela ne peut pas être sauvé. Quiconque comprend cela va à l'humilité et quitte l'orgueil. Alors, le monde actuel est un monde plein d'orgueil. Et notre Seigneur, pour la deuxième fois, comme il l'avait fait déjà en venant dans le monde, humilie l'Église, humilie les chrétiens, comme lui-même fut humilié. Et cette humiliation tourne à sa gloire, parce que cette humilité ne prive en rien les chrétiens de la grâce, comme elle n'a en rien privé notre Seigneur de sa divinité. C'est la foi, ce sont les vertus théologales qui font aujourd'hui la gloire de notre Seigneur. Et il suffit que nous soyons véritablement fidèles pour que nous donnions à notre Seigneur la gloire qui est la sienne. Voilà un beau programme en ce début d'année liturgique. Voilà un beau programme. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à accomplir ce programme, de nous former à l'humilité, de nous former au désir de salut des âmes, de nous former à la conquête des âmes, de nous donner un grand cœur missionnaire comme était celui de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.